Content d'être avec vous, les amis, pour cette prédication. En effet, Jésus est mon agenda, comment le fait de vivre en disciple de Jésus gouverne la gestion de notre temps et de notre agenda. Je vais prier avant qu'on aille plus loin à la lumière de ce beau chant qu'on vient de chanter. Prions. Oui, notre Dieu, en effet, l'amour que tu as manifesté en Christ nous réclame. Et nous voulons aussi dire, nous voici, à la lumière de la croix, à la lumière de ce que Jésus a fait pour nous, alors qu'il a donné sa vie. Nous voulons être tout entiers à toi. Voici notre corps, voici notre âme, voici notre temps, notre argent, tout ce que nous sommes. Nous voulons te le donner. Et je te prie que tu nous aides, alors qu'on va ouvrir ta parole et qu'on va regarder différents passages, que tu nous aides à voir ce que ça signifie pour chacun de nous que Jésus soit Seigneur sur notre agenda et sur notre gestion du temps. Sois avec moi dans ma faiblesse et utilise-moi pour ta gloire. On prie ça dans le nom de Jésus. Amen. Alors on a tous les amis, c'est pas une surprise de dire ça, 365 jours chaque année, ou plus ou moins, enfin on a tous le même nombre de jours, mais c'est plus ou moins 365. Et dans ces 365 jours, on a tous 24 heures. Ça fait 1440 minutes, ça fait 86 400 secondes. En gros, on peut dire qu'on est chaque jour gestionnaire d'un grand nombre de biens, qu'on n'a pas trop le choix, qu'on doit dépenser, qu'on ne peut pas économiser. Et c'est quelque chose qu'on a chaque jour. Et la question qu'on doit se poser, donc, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on investit ce bien en termes de temps dont on est propriétaire? Et comment savoir ce qui est un bon investissement et ce qui n'est pas un bon investissement ou ce qui est un moins bon investissement? Comment savoir ce qui devrait gouverner ma gestion du temps, la gestion de mon agenda en tant que disciple de Jésus? Alors ce matin, je ne vais pas vous dire de manière spécifique ce que vous devez faire le vendredi à 20h ou le mardi matin à 8h. D'abord parce qu'on a tous des situations de vie bien différentes et donc ça va ressembler à des choses bien différentes en fonction de chacun de nous, on ne peut pas vivre de la même manière. Mais surtout parce que ce ne serait pas utile de commencer par là, dans les détails. Il faut d'abord qu'on ait en tête les principes ou les priorités qui vont gouverner notre comportement dans la pratique. Et c'est ça qu'on va voir ensemble, on va voir trois principes bibliques pour gouverner notre gestion du temps, pour gouverner notre agenda. On va voir la vie passe vite, profitons-en. L'éternité arrive, investissons-y. Et troisièmement, Christ est notre vie, vivons pour lui. Premièrement, la vie passe vite, profitons-en. Alors vous connaissez probablement le refrain du livre de l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Ce refrain, il nous montre que tout dans cette vie est vain, tout est éphémère, tout est comme de la fumée qui s'envole au-dessus d'un feu et qui ne va pas rester, qui ne va pas durer. Et le but de ce livre de l'Ecclésiaste, c'est non seulement de nous montrer que la vie passe vite, mais aussi de nous montrer que la vie est décevante, que la vie donne beaucoup moins que ce qu'elle promet. Un peu comme un Big Mac, on le voit sur la pub, il a l'air magnifique, et quand on ouvre la boîte, il nous a déçus. Il donne beaucoup moins que ce qu'il promet. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, d'avoir dans votre tête un super moment que vous allez passer. Et puis dans la réalité, c'était beaucoup moins bien que ce que vous avez imaginé. C'était décevant. Par exemple, peut-être un pique-nique entre amis. Vous dites, super, il va faire beau, on va manger ensemble, on sera ensemble au soleil avec un bon repas, on pourra discuter, c'est génial. Mais le jour J, rien ne se passe comme prévu. On est à Bruxelles, il y a des nuages, il fait froid, vos amis ils arrivent en retard, vous avez oublié d'acheter ce qu'il faut pour le pique-nique, ils ont un bébé qui fait que de pleurer, vous ne pouvez pas discuter. Bref, c'est la déception totale, rien ne s'est passé comme prévu. C'est ce qu'on connaît dans pas mal de domaines de notre vie ici-bas. Tout est comme de la vapeur, comme de la fumée au-dessus d'un feu, même le bonheur. Et le livre de l'Ecclésiaste veut nous dire que puisque la vie passe vite, alors il faut en profiter. Puisque tant de choses sont décevantes, alors il faut cueillir le bonheur tant qu'il est là. C'est ce qu'on voit en particulier dans Ecclésiaste au chapitre 3. Je vais lire les versets 10 à 14. Ecclésiaste au chapitre 3, les versets 10 à 14. Après avoir considéré ce caractère décevant de la vie, voici ce que l'auteur dit. « J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme, hormis de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. Et aussi que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. Vous avez fait attention au verset 12. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme hormis se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie. Vous voulez un critère pour savoir avec quoi remplir votre agenda, comment utiliser votre temps? La réponse surprenante de ce passage, fais ce qui te semble bon, fais ce qui te rend heureux, fais ce qui t'apporte du bonheur. Remplis ton agenda avec des choses qui te donnent de la joie. Cueille le bonheur tant qu'il est là. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Puisque la vie est décevante et éphémère, alors profites-en au maximum. Puisque le bonheur est comme de la vapeur, alors amasse autant de vapeur que tu peux, parce que ça ne va pas durer. Alors bien sûr, il n'est pas question ici de faire des choses qui seraient immorales ou de poursuivre des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais il s'agit ici de profiter librement du monde que Dieu a créé. On l'a vu la semaine passée en parlant de l'argent. Le monde que Dieu a créé est bon, et ce n'est pas une mauvaise chose d'en profiter. La vision biblique des choses, ce n'est pas un ascétisme froid, mais plutôt un cadre où on profite librement des bonnes choses que Dieu nous donne. Et l'Ecclésiaste reconnaît que ce bonheur, cette joie qu'on a, même si ça ne dure pas, c'est un cadeau qui vient de Dieu. Faire un barbecue entre amis, faire un jeu de société avec des personnes qu'on apprécie, faire du sport, un sport que l'on aime, regarder un bon film ou un match de foot à la télé, prendre une bière en terrasse à partir du 8 mai, lire un bon roman, écouter la 7e symphonie de Beethoven ou une autre musique que vous appréciez, rire face à un gif que quelqu'un vous a envoyé sur WhatsApp, cuisiner un bon gâteau, déguster un bon gâteau que quelqu'un d'autre a cuisiné, faire des mots croisés, raconter une bonne blague, découvrir un mème sur Internet. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un mème, demandez à vos ados au repas. Mais tout ça, ce sont des choses de cette vie qui sont bonnes et qui nous apportent du bonheur et de la joie, et qui sont des cadeaux de la part de Dieu. Ces choses ne sont pas mauvaises, et donc ce n'est pas mauvais qu'elles occupent notre agenda. Au contraire, ce livre de l'Ecclésiaste nous encourage à en profiter tant que ces choses sont là. Et si chaque fois que nous sommes confrontés à ces choses, c'est de la culpabilité que l'on ressent, c'est peut-être qu'on n'a pas la juste perspective sur ces réalités. On a peut-être à tort distingué ce qui est spirituel d'un côté et qui plairait à Dieu et ce qui n'est pas spirituel de l'autre et qui ne plairait pas à Dieu. Et donc, on a besoin de retrouver le bon caractère de ces choses qui sont créées par Dieu. Alors oui, la vie passe vite, le bonheur passe vite. Cueillons-le donc tant qu'il est là, d'une manière qui plaît à Dieu, d'une manière qui respecte ses commandements, mais aussi d'une manière qui honore les bons cadeaux qu'il nous donne. La vie passe vite, profitons-en. Deuxième principe pour gérer notre agenda, pour gérer notre temps, l'éternité arrive, investissons-y. L'éternité arrive, investissons-y. Parce qu'en profitant de ces choses, on doit s'attendre à connaître la déception liée au caractère de cette vie, comme on a parlé. Ces choses ne satisfont pas pleinement, ces choses ne vont pas durer, et même le bonheur lié à ces choses ne va pas durer, il est comme de la vapeur, il est comme de la fumée au-dessus d'un feu. Et là encore, c'est ce que le livre de l'Ecclésiaste met en avant, et donc on se retrouve face à un dilemme. La vie passe vite, il faut en profiter, mais ça restera décevant. Ça restera décevant. On ne sera jamais réellement satisfait, et donc on semble être bloqué dans une impasse. On semble être bloqué dans le pessimisme, jusqu'à ce qu'on mette Dieu dans l'équation. Je ne sais pas si vous avez fait attention au verset 14. Il est dit ceci, j'essaie juste de retrouver moi le passage sous les yeux. Au verset 14, il est dit « Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. » Et en lisant ça, on pousse un ouf de soulagement. Il est dit « Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. » Ah, enfin ! Enfin quelque chose qui n'est pas de la vapeur. Enfin quelque chose qui n'est pas décevant. Enfin quelque chose qui n'est pas comme de la fumée au-dessus d'un feu. Ce que Dieu fait durera toujours. Enfin, il y a l'espoir de quelque chose qui dure pour l'éternité, après cette vie. Et cet espoir se trouve en Dieu. Cet espoir se trouve dans la crainte de qui est Dieu. Et ça, c'est ce que l'on sait avec la révélation biblique tout entière. Et donc, maintenant, on passe du livre de l'Ecclésiaste et on fait un saut en avant jusque dans le Nouveau Testament. Et on va dans 1 Corinthiens, au chapitre 15. quand Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Corinthe, qu'on étudie en ce moment en Église, on n'est pas encore au chapitre 15, mais on voit dans le chapitre 15 que Paul met en avant le fait que Jésus est ressuscité corporellement, physiquement, et donc nous avons l'espoir, nous aussi, d'être ressuscités comme lui. Et que là, il met en avant le fait que la résurrection de Jésus, c'est le fondement de notre espérance. Il y a une vie après cette vie, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est ressuscité. Il y a l'espoir de quelque chose qui dure, et donc ça nous encourage à persévérer. Et Paul termine son chapitre 15 de 1 Corinthiens de la manière suivante. 1 Corinthiens 15, verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. » Il dit ici, ce travail n'est pas inutile, c'est-à-dire il n'est pas vain, ce n'est pas de la vapeur, ce n'est pas décevant, ce n'est pas comme toutes les choses de cette vie, ça dure après cette vie, pour l'éternité. Alors on va voir plus tard ce dont il s'agit précisément, mais ça nous permet déjà de réaliser que pas toutes les choses ont la même valeur dans cette vie. Il y a des choses qui sont comme de la vapeur, comme de la fumée au-dessus d'un feu, et qui passent. Il y a des choses qui durent, il y a des choses qui restent pour l'éternité. Et il ne s'agit pas ici nécessairement d'une distinction entre des choses qui seraient immorales et des choses qui seraient morales, entre des choses qui sont des péchés et d'autres qui ne le seraient pas, mais il s'agit ici d'une distinction de valeur. Certaines choses ont plus de valeur que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'elles durent dans l'éternité, parce qu'elles durent plus longtemps. Et donc si maintenant on pense à notre agenda, à notre gestion du temps, la chose la plus sensée à faire, qui a le plus de sens, c'est d'investir dans ce qui dure, de vivre pour les choses qui vont rester, et pas de vivre pour les choses qui sont comme de la vapeur, comme de la fumée au-dessus d'un feu. Ça, c'est difficile parce qu'on vit dans un monde qui nous encourage à penser uniquement au présent. Un peu comme si on avait des œillères comme les chevaux qui nous empêchaient de penser à l'éternité, de penser à ce qui arrive après. Et donc, on a besoin de prendre du recul et de mettre notre vie sur terre, notre existence sur terre, sur l'échelle de l'éternité. Et j'avais vu une fois une illustration qui m'avait vraiment marqué, que quelqu'un donnait, et je vais essayer de la reproduire ici. C'est quelqu'un qui avait pris une corde. Alors imaginez que cette corde, j'espère que vous la voyez bien à la caméra, c'est ce qui représente votre existence éternelle. Et donc c'est une corde qui, on va imaginer hein, qu'elle descend ici, elle continue ici, ceux qui sont dans la salle voient qu'elle continue ici, bien sûr. Elle continue, elle sort dehors, elle va jusqu'à Paris, elle continue à Brest, elle va aux États-Unis, elle fait le tour du monde, et elle continue sans arrêt, sans arrêt. Elle n'a aucune fin, cette corde. Et cette corde représente l'éternité. On va exister pour l'éternité, une existence sans fin, pour toujours, à jamais. Mais maintenant, ce qui est frappant de réaliser, c'est que représente notre vie sur Terre à l'échelle de l'éternité ? Bah, je ne sais pas si vous voyez ça, mais il y a un petit bout rouge ici. Et ça, c'est le temps qu'on passe sur Terre. Quelques dizaines d'années. Qu'est-ce que ça représente quand on le met sur l'échelle de cette corde, qui dure sans arrêt, qui ne s'arrête pas, qui va continuer ? Bah ça, c'est des choses qui nous amènent à enlever ces œillères et à réaliser « Ah ok, ma petite vie sur Terre, oui, elle est importante, oui, elle est précieuse, mais quand je la compare à l'éternité, bah, les choses changent. Et les choses de cette Terre perdent leur valeur et on remarque qu'il y a des choses qui ont plus d'importance que d'autres. Alors, ça nous amène à dire « Mais je ne veux pas investir pour ce petit bout rouge, je ne veux pas vivre toute ma vie pour ce petit bout rouge, mais je veux investir pour l'éternité, investir pour ce qui dure. » Et si on parle d'investir pour l'éternité, d'investir pour ce qui dure, je pense que ça va impliquer deux choses. La première chose que ça va impliquer, c'est de maîtriser ce qui est éphémère. Maîtriser ce qui est éphémère. Il ne s'agit pas de rejeter ce qui est éphémère, parce que comme on l'a vu, ce n'est pas nécessairement mauvais. Les choses de ce monde matériel sont des cadeaux de Dieu dont on peut profiter, on ne rejette pas ce qu'on a dit avant. Mais il s'agit de maîtriser ce qui est éphémère. Parce que trop facilement, ce qui est éphémère peut prendre le pas sur notre vie et nous maîtriser, contrôler nos choix, contrôler notre gestion du temps, envahir notre agenda, voler notre temps. Ces cadeaux de Dieu qui ne sont pas mauvais en eux-mêmes peuvent devenir des idoles et des addictions destructrices qui vont voler notre temps. Un sport que l'on aime peut devenir une idole où toute notre vie va tourner autour de ça. Si je me blesse et que je ne peux plus en faire, mon moral est à zéro. Et si je dois le sacrifier pour faire autre chose qui a plus de valeur, je vais le faire en grinçant des dents. La joie d'apprécier une bonne bière ou un bon verre de vin peut se transformer en alcoolisme solitaire et destructeur. Un jeu vidéo, la télé, les réseaux sociaux, le smartphone peuvent également devenir des addictions sournoises qui volent notre temps et notre temps va s'envoler en fumée. Parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi je remarque que mon smartphone a toujours quelque chose à me proposer qui aura l'air super important, qui aura l'air vraiment la chose la plus importante à faire sur le moment, la chose la plus captivante à faire dans l'immédiat. Et on est attiré par ce qu'il y a dans l'immédiat. Et quand on se lève, ce qui est le plus attirant, ce n'est pas de lire la Bible ou de prier pour grandir dans notre relation avec Dieu, mais ce qui semble le plus attirant, c'est de regarder les dernières nouvelles sur la RTBF, c'est de regarder ce WhatsApp qu'un ami nous a envoyé, c'est de regarder les dernières nouvelles sur Instagram. C'est ça qui va captiver notre temps, notre attention, et c'est pour ça qu'on doit maîtriser ces choses, pour que ces choses qui ne sont pas mauvaises ne nous volent pas du temps précieux qui pourrait être investi ailleurs, dans quelque chose qui a plus de valeur, pour pas qu'on se réveille plus tard, trop tard, en réalisant qu'on a gâché notre temps et qu'on l'a gaspillé, qu'on aurait pu l'utiliser autrement. En 2020, en moyenne, les Belges de 16 à 64 ans, c'était une étude qui montrait ça, ont passé 1h45 par jour sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas forcément mauvais en soi, c'est juste un chiffre, et tout dépend de ce pourquoi c'est utilisé. Mais ça représente quand même pas mal de temps, chaque semaine, plus de 12 heures. Chaque semaine. Et si ce temps part en fumée, c'est dommage. On passe à côté de quelque chose. Et si on s'intéresse encore plus aux jeunes, aux gens de ma génération, les chiffres sont beaucoup plus inquiétants. Il s'agit de 2, 3, 4 heures par jour. Et où va tout ce temps? Est-ce qu'il s'envole en fumée? Il y a tant d'autres exemples qu'on pourrait donner qui nous montrent qu'on a besoin de maîtriser ce qui est éphémère, d'être intentionnel sur la place que ces choses ont dans notre vie. Parce que sinon, on va se laisser envahir par ces choses, elles vont accaparer notre temps, notre énergie. Et quand on réalisera ça, ce sera trop tard et on va le regretter. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'aller sur Facebook ou sur YouTube pour chercher quelque chose. Et puis 30 minutes ou une heure après, vous êtes toujours là-bas, sans avoir même cherché ce pourquoi vous étiez venu. Et vous dites, mais qu'est-ce que je suis venu faire à la base? Moi, ça m'est déjà arrivé en tout cas, plusieurs fois. Et puisque j'imagine ne pas être le seul, alors je nous encourage à limiter, à maîtriser ces choses. Et à réaliser que c'est une preuve de sagesse dans notre gestion du temps, de se mettre des barrières sur ces choses-là, pour être des bons gestionnaires du temps que Dieu nous donne. Et l'idée, ce n'est pas de se priver des bons cadeaux de Dieu, mais plutôt de garder chaque chose au bon endroit, chaque chose à sa place. Parce qu'on n'est pas appelé à vivre pour ce qui était éphémère, comme si c'était ça le but ultime de notre vie. Non, plutôt on est appelé à profiter de ces choses alors qu'on vit pour autre chose, alors qu'on vit pour un but plus grand, pour une ambition plus grande. Et c'est ce qu'on va voir. Donc investir dans ce qui est éternel, ça implique de maîtriser ce qui est éphémère, mais ça implique aussi de vivre pour ce qui dure éternellement. Il est dit dans le verset de 1 Corinthiens 15 qu'on a lu, 1 Corinthiens 15, 58, « Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. » Ces choses qui durent pour toujours, c'est des choses qui sont bien spécifiques. Il s'agit du travail ici qui est fait dans l'œuvre du Seigneur. Et ce que Paul entend par là, c'est ce qu'on appellerait nous probablement aujourd'hui le service du Seigneur. Ce que chaque chrétien est appelé à faire. Œuvrer pour que l'évangile progresse et œuvrer pour que l'Église grandisse, pour que les chrétiens soient édifiés. Le travail d'évangélisation et d'édification qui n'est pas réservé à certains spécialistes, mais qui est le privilège et la responsabilité de chaque chrétien, de chacun de nous. La Bible nous dit que c'est ça qui va durer pour toujours. C'est là qu'il faut investir. Donc si on veut un autre critère pour savoir avec quoi remplir notre agenda, comment gérer notre temps, on peut prendre celui-ci, de mettre en priorité ce qui est éternel, de mettre en priorité le service du Seigneur. C'est meilleur que tout, pas d'un point de vue moral, mais dans l'impact que ça aura dans l'éternité. Investissons dans l'éternité. Et troisièmement, troisième principe pour notre gestion du temps, Christ est notre vie, vivons pour lui. Peut-être que le fait de voir tout ça vous fait vous poser des questions. Vous vous dites, mais moi, je travaille ou j'étudie et je n'ai pas le choix. Et une bonne partie de mon temps est utilisée pour ce qui n'est pas éternel. Est-ce que ça veut dire que je dois tout quitter et aller étudier à l'IBB? Peut-être. James serait probablement heureux d'en discuter avec vous. Mais pas forcément. Quand on parle de gestion du temps chrétienne, de Jésus et mon agenda, il ne faut pas penser qu'on devrait tous avoir le même agenda, les mêmes occupations. Ce n'est pas le cas. On a des situations de vie qui sont bien différentes, qu'on soit employé ou au chômage, qu'on soit étudiant ou mère au foyer, qu'on soit pensionné ou en arrêt maladie. Donc on aura des situations bien différentes, des contextes de vie bien différents, mais par contre, on aura tous le même objectif. On aura tous le même objectif de vie, la même ambition qui va se décliner de manière bien différente en fonction de notre situation et notre contexte. Et ce serait un danger, en fait, de commencer dans les détails en se demandant « Ah, mais combien de pourcentage de ma semaine je dois donner au service du Seigneur pour avoir la conscience tranquille, pour être un bon chrétien ?» Non, ce n'est pas là qu'il faut commencer. Il faut commencer de manière plus large, en voyant l'ambition qui doit animer nos vies. Et ensuite, tout va se mettre en place, de manière différente pour chacun et avec liberté, selon notre contexte. Alors c'est quoi cet objectif, c'est quoi cette ambition? Bien, on se tourne vers notre dernier passage ce matin dans Philippiens 1, Philippiens chapitre 1. On va juste lire quelques versets ici. Il faut savoir que cette lettre que Paul écrit aux Philippiens, on l'a étudiée avec le groupe étudiant il y a peut-être un ou deux ans, quelque chose comme ça. C'est super encourageant et on voit qu'il y a vraiment un lien très fort qui existe entre Paul et les Philippiens. Paul a implanté cette église à Philippe et les Philippiens soutiennent Paul depuis le tout début. Il y a vraiment un lien très fort et ils sont vraiment proches l'un de l'autre. Et quand Paul écrit cette lettre, il est en prison. Et les Philippiens ont probablement appris ça, qu'il y a quelque chose qui est arrivé à Paul. Ils sont inquiets, ils attendent des nouvelles de la part de Paul. Un peu comme si vous apprenez qu'un de vos amis est malade ou il a des soucis. Vous attendez impatiemment de recevoir un SMS de sa part qui va vous dire « Ah, mais tout va bien, rassure-toi ». Ben, c'est la même chose pour les Philippiens. Et donc, quand Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Philippe, c'est dans un sens pour donner des nouvelles. Il voulait avoir de ces nouvelles. Mais c'est vraiment surprenant de voir comment Paul commence. Juste après l'introduction de la lettre, après les 11 premiers versets où il a prié pour les Philippiens, voilà ce qu'il dit dans les versets 12 à 14. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Alors on s'arrête déjà là. Il commence en disant, mais il n'est pas en train de se plaindre, de donner de ses nouvelles, de voilà, ah mais voilà ce qui m'est arrivé, c'était difficile, c'était compliqué. Non, il est en train de leur dire, oui, il y a des choses qui me sont arrivées, oui, elles sont difficiles, mais je veux que vous le sachiez, ça a servi que l'Évangile progresse. C'est magnifique, c'est merveilleux. Et comment est-ce que l'évangile a progressé? On le voit dans les versets 13 et 14. Il dit au verset 13, « Dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. » Il a parlé de Jésus autour de lui. Les non-chrétiens ont entendu parler de l'évangile. Paul, il ne peut pas se taire. Si vous le mettez quelque part, il va parler de l'évangile. Et donc l'évangile a progressé, il se réjouit de ce qui lui est arrivé parce que ça a permis à des non-chrétiens d'entendre parler de Jésus. Mais l'autre manière par laquelle l'évangile a progressé, c'est au verset 14. Il dit « La plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » D'autres chrétiens, des frères et sœurs, ont été motivés à faire comme Paul, à parler de l'Évangile. Ils ont vu l'assurance, le courage de Paul et ils ont voulu faire de même. Donc ici, Paul se réjouit, c'est vraiment surprenant. Il donne ses nouvelles aux Philippiens en disant « Mais vous inquiétez pas, tout va bien pour moi, l'Évangile a progressé. » Peu importe ce qui se passe dans sa vie, peu importe les difficultés, ce qui compte, ce n'est pas son confort, ce n'est pas son ambition personnelle, mais il vit pour quelque chose de plus. Il vit pour Christ, il vit pour les progrès de l'Évangile. Et tant que sa vie peut servir à cela, alors il est heureux. Et c'est ce qu'on voit encore dans la suite du passage, on ne va pas tout voir ensemble. En fait, c'est un de mes chapitres préférés de la Bible, donc je serais tenté de rester juste ici. Mais on va avancer dans les versets 20 et 21 de Philippiens 1, où on voit ça à nouveau. Où là, Paul, il est dans une situation difficile, alors qu'il était en prison, il y avait deux issues qui étaient face à lui, il y avait la mort et la vie. Peut-être qu'il allait être mis à mort à cause de sa foi, et sa vie sur terre allait s'arrêter là. Et peut-être qu'il allait continuer à vivre. Et je ne sais pas vous, mais moi, dans cette situation, j'aurais été très angoissé, j'aurais été très inquiet, très anxieux. Mais comment est-ce que Paul réagit? Verset 20. « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. » Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Qu'il meure ou qu'il vive, Christ sera glorifié. Et donc il se réjouit, il n'a pas de crainte, parce que c'est ça son ambition, c'est ça sa priorité, c'est ça ce qui gouverne toute sa vie. Et on le voit avec le verset 21, il dit « En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. » Donc on voit qu'il y a une ambition principale, qui motive la vie de Paul, qui gouverne ses décisions, qui gouverne ses choix, qui l'aide à réagir dans l'épreuve. Peu importe ce qui arrive, tant que Christ est glorifié, tant que l'Évangile progresse. En fait, Paul, c'est un peu comme les athlètes de haut niveau. Ils vivent toute leur vie à la lumière d'une ambition, à la lumière d'un objectif, courir le 400 mètres aux Jeux Olympiques de je ne sais pas quelle année. Et toute leur vie va être vécue à la lumière de ça. Chaque jour de leur vie, même leur repas, même toutes les décisions qu'ils vont prendre, ils vont les prendre en fonction d'un objectif plus grand. Et c'était la même chose pour Paul, il vivait pour Christ. Mais ce n'est pas quelque chose qui est réservé uniquement à Paul. qui est réservé uniquement aux grands missionnaires, aux biographies du passé qu'on lit, qui étaient vraiment consacrées. Non, c'est quelque chose pour chacun de nous. Et là encore, Paul est très clair là-dessus dans cette lettre de Philippiens. Je vous lis juste le début du verset 27, où Paul dit seulement, il parle aux Philippiens maintenant, juste après tout ce qu'il a dit, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. En gros, vivez de la même manière. Vous aussi, vivez à la lumière de l'évangile, à la lumière de ce que Christ a fait pour vous à la croix, comme on l'a chanté dans Rédempteur adorable. À la lumière de ce que Christ a fait à la croix, on veut se donner nous-mêmes tout entier. Mais Paul dit aux Philippiens, vous aussi, vivez avec la même ambition. Que toute votre vie soit vécue à la lumière de ce que Christ a fait pour vous à la croix, avec cette ambition plus grande. Vivez vos décisions, votre choix de gestion du temps, de votre agenda, à la lumière de cette réalité glorieuse. En parlant de productivité, on donne souvent l'image, l'illustration d'un grand vase. Je n'ai pas amené ça aujourd'hui, je n'ai pas de grand vase, mais imaginez vraiment un grand vase. Et vous voulez mettre dedans des grosses pierres, des cailloux, du sable et de l'eau. Bah, qu'est-ce qu'il faut mettre en premier pour que tout rentre? Bah, si on commence par mettre de l'eau, on remplit d'eau le vase, bah, on ne pourra plus rien mettre d'autre, parce que ce sera complet, ce sera rempli. Si on commence en mettant le sable, bah, on pourra mettre de l'eau, mais on ne pourra pas mettre les cailloux et les grosses pierres. En fait, pour que tout rentre, ce qu'il faut mettre d'abord, c'est d'abord mettre ce qui est plus gros, d'abord mettre les grosses pierres, vous remplissez le vase, et ensuite vous allez pouvoir mettre les petits cailloux, les graviers qui vont remplir les trous, et ensuite vous pourrez mettre le sable qui est encore plus petit, qui va remplir les trous, et enfin vous pourrez mettre l'eau qui va remplir encore le vide qui reste. Bah, c'est juste une image, une illustration pour montrer qu'on doit mettre en priorité ce qui est le plus important, ce qui compte le plus. Et ces grosses pierres dans notre vie, bah, c'est cette ambition que Paul présente, de vivre pour Christ, que Christ soit glorifié, de réaliser que Christ est notre vie. C'est ça notre raison de vivre ici-bas. Et ça va avoir des formes différentes en fonction de chacun. Ça ne va pas ressembler pour tout le monde à la même chose. On le voit avec l'exemple de Paul et des Philippiens. Ils avaient une ambition commune de faire connaître Christ, de faire progresser l'évangile, mais ils y étaient impliqués de la manière différente. Les Philippiens n'étaient pas avec Paul sur le terrain, en train de proclamer l'évangile, en train d'implanter des églises. Ils étaient à distance, en train de soutenir Paul financièrement, de prier pour lui, de le soutenir moralement, comme on le voit dans cette lettre. Mais ils étaient impliqués tout autant dans les progrès de l'évangile. Et ils étaient impliqués de manière tout aussi radicale, de manière tout aussi sacrificielle, en vivant leur vie à la lumière de cette ambition, à la lumière de cette réalité. Pour reprendre l'exemple de cet athlète, ce athlète de haut niveau, qui vit toute sa vie à la lumière d'un objectif, ben, il n'est pas seul. On peut penser à son coach, par exemple. Son coach ne va jamais courir à sa place. Il ne va jamais être sur la piste du 400 mètres. Il ne va jamais recevoir la médaille. Mais pourtant, il sera impliqué de manière tout aussi sacrificielle. Et lui aussi, il va vivre sa vie à la lumière d'une ambition plus grande, de faire en sorte que son athlète puisse gagner. Et donc, si on prend tout ça en compte, au final, la question pour nous, ce n'est pas combien de trucs chrétiens j'ai dans mon agenda. Est-ce que je suis en train de faire un truc spirituel ou pas? Est-ce que j'ai le droit de regarder Netflix ce soir ou pas? Non, la question, c'est plutôt, quel est l'objectif de ma vie? Vers quoi est-ce que ma vie est en train de se diriger? Est-ce que ma vie est motivée par cette ambition plus grande de glorifier Christ, de réaliser que Christ est ma vie, que je dois vivre pour lui? Est-ce que c'est ça qui gouverne mes choix? Et du coup, oui, se poser la question, est-ce que cette chose que je veux faire maintenant est à sa juste place dans cet objectif plus grand? Dans cet objectif, dans cette ambition de notre vie, il faut réaliser que le repos, par exemple, et les divertissements sont inclus. D'abord parce que ce qu'on a dit au tout début reste vrai. Ce sont des cadeaux de Dieu qui ne sont pas à rejeter, on peut en profiter avec reconnaissance. Mais aussi, on doit réaliser qu'ils peuvent être précieux parce qu'on en a besoin, en particulier le repos. Il nous aide à tenir sur le long terme. Il nous aide à être plus efficaces et plus productifs. Et donc, si on ne vit pas pour se reposer, en fait, on se repose pour vivre. On se repose pour vivre pour cette ambition plus grande de glorifier Christ. Être des bons gestionnaires du temps que Dieu nous donne, c'est aussi savoir tenir sur le long terme. Et donc savoir inclure ces choses dans notre quotidien d'une manière qui nous aidera à tenir sur le long terme. Le sommeil, c'est peut-être l'exemple le plus évident de tout ça. On ne peut pas s'en passer. On en a besoin. Et c'est une bonne chose. C'est un rappel de notre fragilité humaine. En fait, aller dormir, c'est comme déclarer « Dieu, tu es souverain, et moi, je ne le suis pas. Je peux dormir parce que toi, tu ne dors pas. Toi, tu continues à prendre soin de ce monde. Tu continues à faire gérer ce monde de la meilleure des manières. C'est réaliser que Dieu est au contrôle. » Mais c'est vrai qu'il faut aussi dire que, puisqu'on ne vit pas pour ces choses, pour le repos et les divertissements, alors on veut aussi être prêt à les sacrifier, quand c'est nécessaire. Comme cet athlète qui va sacrifier des choses qui pourraient être importantes pour lui, mais il va les sacrifier en regard d'une ambition plus grande, plus importante. Donc on ne doit pas s'accrocher à ces choses comme si notre vie en dépendait. On doit être prêt à les sacrifier pour une ambition plus grande. Alors peut-être que cette prédication, c'est l'occasion pour chacun de nous de faire le point. Est-ce que j'ai saisi cette ambition plus grande de la vie chrétienne? Est-ce que les grosses pierres sont en place dans ma vie, dans mon agenda? Et peut-être, oui, pour se poser cette question, ça vaut le coup de juste regarder son agenda, de regarder où est-ce qu'on investit notre temps. C'est vrai qu'on ne commence pas dans les détails, on ne se demande pas combien je dois faire de trucs chrétiens chaque semaine, mais en même temps, on doit réaliser que notre agenda, c'est le reflet de nos priorités. Si quelqu'un recevait à la fin de chaque semaine un rapport de ce dans quoi on a investi notre temps, ce avec quoi on a utilisé notre temps dans la pratique, ben en fait, il aurait un assez bon reflet de nos priorités, un assez bon reflet de ce qui compte le plus pour nous. Peut-être pas ce qu'on dit en théorie, mais en tout cas ce qui est dans la pratique. C'est un peu comme en fin de semaine, quand je reçois le rapport hebdomadaire du temps d'écran que j'ai passé sur mon smartphone. Vous avez peut-être ça sur votre smartphone. Mais en fait, j'ai beau dire pendant cette semaine, c'était ça ma priorité, mais ce rapport me ramène à la réalité. Voilà où j'ai investi mon temps, sur mon écran, dans la pratique, dans la réalité. Voilà quelles sont mes priorités dans la réalité, en vrai. Donc c'est une bonne chose d'avoir des moments où on s'arrête, où on se pose des questions, et on regarde ce qui occupe le plus notre temps, pour voir si c'est cohérent avec ces trois principes bibliques qu'on a vus. Pas par l'égalisme, pas pour se donner une bonne conscience, mais parce qu'on a une ambition glorieuse pour laquelle vivre, Christ et les progrès de l'Évangile. On a le privilège de pouvoir vivre pour quelque chose qui dure, pour quelque chose qui n'est pas de la vapeur, pour quelque chose qui ne va pas s'envoler. On a le privilège de pouvoir investir dans l'éternité. Et dans ça, on reconnaît, et je termine avec ça, on reconnaît que si on a ces principes en place, la manière de les vivre dans le quotidien sera différente pour chacun. Si on prenait 10 chrétiens qui comprennent et qui vivent ces principes, leur agenda ressemblerait probablement à des choses bien variées en fonction de leur situation de vie, en fonction de leur contexte, mais ils iraient tous dans la même direction. Ils seraient en train de profiter des bons plaisirs de la vie d'une manière qui glorifie Dieu. Les divertissements et le repos seraient présents dans leur agenda à leur juste place. Ils seraient également prêts à sacrifier ces temps de divertissement et de repos pour répondre à des besoins plus importants, des besoins plus urgents dans l'Église, dans leur famille, dans la société, dans le monde. Ils planifieront leur gestion du temps parce qu'ils seront conscients que leur temps est précieux et qu'ils ne veulent pas qu'il s'envole en fumée. Ils ne prendront pas d'engagement à la légère lorsque cela mettra en péril engagement envers l'Église locale. Ils ne délaisseront pas leur assemblée parce qu'ils seront conscients qu'il s'agit du lieu privilégié où ils peuvent agir pour le Seigneur, œuvrer pour le Seigneur dans l'évangélisation et l'édification. Ils accepteront les imprévus dans leur vie en reconnaissant que Dieu est souverain et que c'est lui qui est au contrôle. Ils saisiront joyeusement les occasions de service qui se présenteront à eux. Ils seront sérieux dans leur travail, dans leurs études ou dans leur occupation principale, d'une manière qui glorifie Dieu, d'une manière qui ne vaut pas des reproches de la part des autres. Mais ils profiteront également de cette occupation pour lui donner une saveur éternelle, en parlant de l'Évangile avec ceux qu'ils côtoient, en soutenant l'œuvre du Seigneur financièrement et par la prière de manière sacrificielle, en ne laissant pas leur travail prendre le pas sur leur occupation première, que ce soit familiale ou d'autres engagements qui ont plus de valeur à la lumière de l'éternité. En fait, peut-être qu'il serait inspiré par l'exemple de Robert Letourneau. C'est quelqu'un qui a vécu au XXe siècle. Il a commencé en étant ouvrier agricole, vraiment en bas de l'échelle, il était ouvrier. Et puis il a été mécanicien garagiste. Et il était assez intelligent, assez compétent. Il est devenu ingénieur et inventeur industriel de machines agricoles. Et puis rapidement, en fait, il est devenu patron de pas mal d'entreprises et d'entreprises qui avaient beaucoup de succès. Il a créé des machines qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais il était aussi un chrétien convaincu tout le long. Et en fait, c'est vraiment frappant de voir qu'il n'a pas changé. Autant quand il était ouvrier que quand il était patron de plusieurs entreprises, ses principes de vie étaient les mêmes. Il était un chrétien convaincu et il voulait donner à ses occupations une saveur éternelle. Il faisait son travail sérieusement. Il voulait glorifier Dieu avec son travail, mais il était aussi conscient du privilège de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu avec ses finances. Et plus sa situation s'est améliorée, plus il a pu le faire de manière grande. Il cherchait aussi à annoncer l'Évangile à ses collègues puis à ses employés, d'une manière qui soit appropriée et qui respecte le cadre de son travail qu'il avait à faire. Il a vraiment donné une saveur éternelle à ses occupations. C'est un bon exemple. Et probablement, ces chrétiens qui vivent ces principes seraient inspirés par son exemple. Ou alors, ils pourraient être inspirés par ces paroles d'un poème de Charles Studd, juste le refrain qui dit ceci, « Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. » Ces 10 chrétiens, si on les mettait ensemble, ils se retrouveront tous un jour dans l'éternité en réalisant qu'ils auront eu des agendas et des occupations qui étaient bien différentes, mais avec tous le même but, de glorifier Jésus. Ils ne se diront pas alors qu'ils avaient tout bien fait, qu'ils n'ont aucun regret, qu'ils ont tout bien géré, mais ils se diront par contre qu'ils n'ont aucun regret d'avoir investi dans l'éternité, d'avoir investi dans les choses qui durent, même quand ça leur a coûté. C'est à nous maintenant de vivre de cette manière en étant animés par ces principes. On est appelé à être ces chrétiens. Alors que Dieu nous aide, et je vais terminer en priant. Prions. Mais notre Dieu, on te remercie pour le privilège que l'on a en tant que chrétien de vivre pour quelque chose qui dure, de vivre pour ce qui est éternel. On te prie qu'on puisse dire avec l'apôtre Paul que Christ est notre vie, qu'il est notre raison de vivre, qu'on ait cette ambition plus grande qui gouverne tous nos choix. On te prie que tu nous aides dans la pratique à prendre les bonnes décisions qui nous aideront à profiter des bonnes choses que tu as créées alors qu'on vit pour une ambition plus grande. Je prie que tu sois glorifié par cette Église, par nos vies individuelles, et qu'on puisse continuer à annoncer l'Évangile et à faire grandir l'Église de manière sacrificielle, de différentes manières, pour ta gloire. Et on prie ça dans le nom de Jésus. Amen.